Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 175e Comics Weekly, dernier podcast de l'année, avec au sommaire les 5 grosses sorties de la semaine, car il n'y avait que 7 sorties cette semaine. On parlera donc de DC avec Forever Evil et Justice League, de Image avec la sortie de James Robinson Saviors, et on finira par Marvel avec Avengers 24.Now et Origin 2 numéro 1. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour vous parler de ces 5 nouvelles sorties, Mister Unebony.
Oui, bonjour à toutes et tous et joyeux Noël, en retard mais c'est pas grave.
Et Bruno.
Oui, joyeux Noël à toutes et à tous.
Et bonne année aussi par avance, puisqu'on sera peut-être pas là pour le souhaiter.
Je serai en fin d'émission ça.
Allez, on va démarrer cette énorme semaine de comics qui a été très difficile à lire. Hein.
Ouais, ouais. C'est la première fois que tout le monde a lu tout.
Bah, techniquement, on n'a pas tout lu, puisqu'il y avait 7 sorties. Il y avait aussi une sortie de chez Boom, ainsi qu'une sortie. Non, il y en avait 8, pardon. Il y a une sortie chez Dynamite, Robotech, Voltron, et un Doctor Who Special.
Voilà. Un truc sur Sophie Marceau.
Chez Boom. Alors.
Oh là
je
là.
Je comprends pas la vanne.
La Boom, Steve.
Oh putain. Oh putain, non, je voulais pas la comprendre en fait, c'est ça, je voulais pas la comprendre, non.
La vanne de l'enfer.
Allez, on va commencer par toi, Benny, justement, tu vas nous parler du Forever Evil numéro 4 chez DC Comics.
Oui, alors, le Forever Evil par Jeff Jones et Dave Finch, avec aussi Richard Friend, donc à l'ancrage.
À l'ancrage, hein, son encreur habituel.
Alors, déjà, on a toute une scène qu'on a pu voir, que certains ont pu déjà découvrir dans les previews, avec Batman qui invite Catwoman dans sa Batcave pour trouver une solution, pour décider d'un plan de secours. Alors, ce qui est assez étonnant, déjà, c'est que Jeff Jones apparemment nous dit que c'est la première fois que Catwoman met les pieds dans la Batcave. Donc, ça me paraît très étrange que Jeff Jones parte du principe que c'est vraiment la première fois. C'est un petit peu un... il y a des moments... Alors, je sais plus si dans celui-là ou dans le Justice League qu'il parle de Blackest Night... Ou non, de la Sinestro Corps War. Voilà, il parle de la Sinestro Corps War.
C'est dans celui-ci.
C'est dans celui-là, ouais.
C'est dans celui-là. Mais voilà, donc il y a des trucs, certains trucs qui ont bien eu lieu, mais... ce soit la première fois qu'elle vient dans la Batcave, ça me semble vraiment étonnant.
Mais c'est le même problème
ensemble,
que d'habitude.
Ils couchent ensemble, mais ils couchent jamais ensemble à la Batcave. Voilà.
Bah, c'est mieux de pas faire ça dans la Batcave, de faire ça dans un vrai lit.
Voilà. Non, mais ils font ça sur le haut des immeubles, tu sais.
C'est tellement plus excitant, la Batcave.
Bah, c'est tellement glauque un lit avec un bat-symbole dessus, quoi. Puisque forcément, dans la Batcave, il y a que du bat-symbole partout, quoi.
Si je peux me permettre, c'est quand même à la limite du comique, puisque, sans mauvais jeu de mots, puisque, on a quand même un Bruce Wayne, donc avec sa gueule à moitié sortie de son masque, qui dit à Selina Kyle, je veux garder mes secrets. Bon.
Oui, j'ai rigolé aussi. En revanche, la page de la Batcave est superbe.
La page de la Batcave est superbe. Il lui parle donc du destin de Dick Grayson en lui disant qu'il est plus ou moins responsable de ce qu'il est devenu. Si avec ça, elle sait toujours pas qu'il est Batman, bon, c'est qu'elle est un petit peu neuneu, la femme. Enfin bref.
David était là aussi. Oui, c'est un Comic City de lendemain de fête. Hein.
Enfin, il était planqué dans un recoin de la Batcave. Si vous le cherchez, c'est comme où est Charlie au fait. Faut le trouver.
Où est David la femme.
Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que Batman lui montre toute sa collection de petites choses pour contrer ses ennemis. Enfin. Ses ennemis. Éventuellement, si Green Lantern, Superman, etc. venaient à péter les plombs, il a des petites choses pour contrer ça.
Chose qu'on avait déjà vu hein, dans les précédents numéros de la Justice League.
Oui, chose qui est connue, hein, c'est vraiment partie du folklore de l'univers de Batman et de la Justice League depuis un bon nombre d'années.
Ou non, puis ça avait été répété dans les New 52, donc c'est pas une
Voilà, très
nouveauté pour les New
récemment, ouais.
52. Ouais.
Exactement, exactement. Mais bon, c'est toujours marrant. Et puis de l'autre côté, on a Lex Luthor et sa petite bande, donc avec Black Adam, Bizarro, etc.
À
Et
Black
Black
Adam.
Manta. Comment il s'appelle? Black Adam?
Ouais,
Black Adam. Black Adam, ouais.
c'est le frère de Kev Adam, c'est ça?
Oui, bah d'ailleurs, y a des fois, il y a des pages où t'as l'impression qu'il a bu trop de soda. Mais enfin voilà, donc ils
Problème
sont
de
dans les
mâchoire.
égouts et qui essayent d'attaquer par surprise
De
les
trouver les
méchants,
tortues ninja.
les vrais méchants, voilà. Et il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement bien écrite et particulièrement pas poignante ni touchante, mais en tout cas intéressante, on va dire. C'est celle entre Lex Luthor et Bizarro, quoi. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. En fait, je rentrais pas spécialement dans ce numéro, mais à partir de cette scène, je me suis dit, enfin voilà, je suis vraiment rentré dedans. Et puis, bah après, on va dire que les deux parties se rejoignent. Batman et Catwoman rencontrent Lex Luthor et son équipe. Il va y avoir une espèce de team-up, et puis ils vont faire face à un certain nombre d'ennemis jusqu'à l'apparition finale de quelqu'un qui débarque, qu'on n'attendait pas forcément. Et voilà. Donc c'est plutôt sympa maintenant. Bon, c'est pas le numéro de Forever Evil super transcendant non plus. Je trouve que Geoff Jones prend vraiment son temps en fait sur cet événement. Un petit peu comme il avait fait sur Flashpoint. C'est un petit peu surprenant. On peut pas dire que les événements récents chez DC balancent du comment dire. C'est pas de la grosse baston quoi. C'est vraiment l'anti-Marvel à ce niveau-là.
Ben ouais, enfin moi j'ai l'impression que ça s'enlise un peu quoi.
Ouais, ça bouge un peu mieux quand même que les
Oui non
précédents
mais
numéros.
ça bouge mais enfin je veux dire on en est quand même au quatrième mois quoi.
Ouais, non mais
Et
c'est
il
ça
s'est
qui.
pas passé grand-chose. Alors le numéro est plaisant, je suis d'accord, le numéro est plaisant, il y a des bonnes scènes, même s'il y a deux trois changements de la part de Geoff Jones qui impose, bah voilà, le fait que Catwoman ne soit jamais allée dans la Batcave, qui impose un peu les origines en quelque sorte de Lex Luthor. Au reste de l'univers DC, en tout cas au reste des scénaristes de DC. Bon, franchement, je trouve que ça n'avance pas, quoi. Et le parallèle encore plus avec le Justice League dont on va parler juste après. Ça n'avance pas des masses, quoi. Pourquoi faire en 7 parties et faire durer ça 7 mois alors qu'on pouvait facilement en couper, je pense, déjà 2 numéros?
Ouais, surtout qu'on parle pas de tous les autres Tain. Enfin, je trouve que Forever Evil et Justice League, c'est peut-être les plus intéressants, mois après mois, sur l'événement Forever Evil. Et même déjà dans ces deux-là, ça avance pas très très vite. Et voilà, on parle pas non plus de tous ces autres Tain tout pourris qu'on a autour de Forever Evil et qui sont vraiment très très lents. Bon, là j'ai trouvé ça quand même plutôt sympathique. On a l'action qui avance un petit peu. J'ai trouvé toujours David Finch vraiment pas au top de sa forme. Hein. C'est vraiment pas très beau hein, par
Il y a
moment.
des pages superbes, la page de la Batcave, je la trouve vraiment magnifique, c'est
La
peut-être la meilleure page du numéro.
ouais, mais c'est ça. Mais les décors ça passe, mais les personnages, je les trouve toujours aussi brouillons par moment et le visage de Lex Luthor, j'ai vraiment du mal quoi.
Ben,
Ah,
quand on
moi c'est
regarde,
le
oui,
moi
vas-y,
c'est le
pardon.
vis pardon c'est le visage de Batman constipé là une fois qu'il a mis je vais pas le spoiler mais enfin vraiment il a une sale tête.
Ouais, non, mais regardez en général l'ancrage aussi de David Finch, c'est pas bon. Alors,
Non.
certes, Richard Friend a ancré, mais j'ai l'impression que, comme certains des premiers numéros, David Finch s'est encore ancré en partie lui-même, et ça donne un ancrage dégueulasse.
Ouais, c'est
Regardez
spécial.
la dernière page,
Ouais.
mais
Ah oui,
vous avez
carrément.
vu ces lignes
Ouais,
épaisses, c'est crado, quoi.
c'est
Alors,
crado. Ça me
c'est pas au
rappelle.
niveau du David Finch qu'on connaît.
Ça me rappelle certains titres qu'on pouvait avoir à l'époque chez Semic dans les kiosques, où t'avais un ancrage des années 90 assez dégueu parfois. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est la grosse page qui sent l'encre, quoi, tu vois, qui vient de sortir de.
Ouais, c'est ça.
Mais
Et
voilà,
la
ça donne
colo
vraiment cette
manque aussi
impression.
de volume, je trouve. C'est vraiment très très simpliste. Mais ça fait pas vraiment le titre blog, enfin le gros titre d'essai où ils mettent vraiment tous les moyens avec les meilleurs dessinateurs, les meilleurs encreurs, meilleurs coloristes. Ça fait un titre un peu bateau, je trouve, par rapport à d'autres gros events qu'on a eu chez DC.
Ce qui amplifie ce sentiment pour moi de bah ça n'avance pas quoi. Si au moins on avait vraiment le top du top du top derrière, on se dirait bon, c'est un peu excusable. Mais là même pas. Enfin David Finch c'est pas mauvais hein, du tout, c'est
Non,
même
non.
bon, mais c'est décevant par rapport à du David Finch habituel, enfin du David Finch que l'on attend.
Le problème avec cet event, c'est que c'est renforcé par le fait que c'est pas épique dans la mesure où les principales têtes d'affiche sont comme diraient les Américains, je sais plus quelle est l'expression consacrée, mais sont pas là quoi. Et ils ont disparu, ils sont tombés sur le champ d'honneur quoi. Donc bon, du coup, on a l'impression que c'est un arc un petit peu comme les autres, alors que c'est quand même l'event principal.
Oui, et puis on a aussi cette absence de menaces finalement, parce qu'on a des grosses menaces, le Grime Syndicate, ces gens qui viennent de la Terre 3, etc., qui sont surpuissants. Et on le verra justement quand on va en parler dans Justice League 26 juste après, mais on nous montre où ils sont, et putain, ils peuvent faire des dégâts dans ces endroits-là, je veux dire, au fin fond de l'Utah, à Denver, enfin des villes qu'on ne voit jamais, donc ils peuvent ravager tout ce qu'ils veulent, ça n'aura aucune incidence sur le reste de l'univers DC. Donc ça me pose un peu de problème quoi. Quand même, je le trouve assez mal géré cet event. Même si c'est très sympa, je le trouve mal géré. Bref, quelqu'un a envie de rajouter peut-être quelque chose avant qu'on passe justement à cette Justice League?
Non, non.
Non,
On
peut
va
enchaîner,
donner
ouais.
les notes, ouais. On va quand même donner les notes. Bah, c'est un bail, ça se laisse bien lire, c'est un bon moment malgré tout. Donc, mais avec toutes ces petites réserves que l'on a émises.
Ouais, moi c'est un petit bail aussi.
Un petit bail pareil et disons que c'est un petit bail parce que ça fait bizarre pour un event. Je trouve que ça n'a pas l'atmosphère d'un event.
On va passer à la suite justement, le Justice League 26, Bruno.
Oui, qui est scénarisé donc par Geoff Johns avec au dessin Ivan Reis et donc Joe Prado à l'ancrage. Donc là, on va continuer un peu sur la lancée des deux précédents numéros de Justice League qui reviennent sur les origines des personnages de la Terre 3. Même si cette fois, j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux présenté puisque on nous explique que c'est le personnage de The Grid qui analyse en fait les données sur les vilains de la Terre 3 et c'est en essayant de découvrir leur histoire qu'il recherche à voir s'il est capable d'avoir des émotions. Et donc en fait, on comprend maintenant pourquoi on nous a présenté les origines des différents personnages. Là, il va s'intéresser au personnage de Hal Jordan, enfin
De tout le reste, en fait,
de tout le
quasiment.
reste quoi. Et du coup, là, ça va un petit peu plus vite que sur les précédents numéros, puisqu'on a trois
Tant
quatre
mieux.
pages. Tant mieux. Mais j'ai trouvé ça cool. Enfin, avec la version d'Hal Jordan de la Terre 3 qui est vraiment complètement apeurée, hystérique et qui se retrouve avec un anneau avec des pouvoirs assez particuliers et un petit peu dégueulasse. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai bien
Moi, il
aimé
m'a fait
aussi.
penser à Flo.
Ah bon?
Non, je déconne. C'était juste comme ça.
C'est totalement gratuit ça.
Voilà, on revient sur le personnage de Johnny Quick, d'Atomica. Enfin, donc voilà, ça permet un peu de développer ces personnages. Il y a des petits mystères aussi qui sont dévoilés au fur et à mesure. On nous explique aussi les origines de The Grid. Voilà, qu'est-ce qui arrive en ce moment à Cyborg? Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se développent dans ce numéro. Un numéro qui, en plus, là, a la chance d'avoir les dessins d'Ivan Reis. Donc, c'est quand même très joli. Je trouve que c'est plus joli que Forever Evil. En plus, ils reviennent un petit peu plus en détail sur peut-être ce fameux personnage cagoulé qu'on a vu dans le premier numéro de Forever Evil et où ça fait maintenant 3-4 mois qu'on attend de savoir qui c'est. Donc, c'est un petit peu long aussi hein, pour ça.
Et le pire,
Mais
c'est que quand tout sera fini, on va apprendre qu'il s'est passé quoi, peut-être une semaine.
ouais, c'est ça.
C'est ça qui est un peu désespérant.
Non, non,
Certes, c'est
c'était
le
juste un
temps
mercredi,
compressé du
hein.
comics, c'est le temps compressé du comics, d'accord, mais 7 mois pour apprendre que tout s'est passé en moins d'une semaine et que ça a avancé aussi peu finalement sur 7 mois, c'est ça qui est un petit peu dommage.
Bah, moi, je pense qu'il y a un problème de construction aussi de cet event en général, puisque tous ces épisodes Origin Story, un petit peu du Crime Syndicate, je trouve toujours, je l'avais déjà dit, mais je trouve toujours qu'on aurait dû avoir ça plus tôt durant le Villains Month. Ça aurait été plus utile que tous ces épisodes. Enfin, on aurait pu en avoir autour des autres personnages classiques, des autres super-vilains classiques, mais pas que. Au fait, ces épisodes-là, là qu'on a actuellement dans Justice League, ça aurait été bien ce mois-là.
Ouais, ou alors nous faire un one shot nous présentant toutes les origines.
Ouais,
Voilà,
bon.
oui, par exemple, exactement, un
Après,
one shot
le choix de Geoff
Origins.
Johns, là, c'est d'avoir placé les origines comme un petit ressort scénaristique vis-à-vis du
Ben, mais
personnage de The
on a
Grid, mais.
l'impression, si tu veux, Bruno, ça donne l'impression qu'il a rien d'autre à raconter que ça, et que, bah,
La
finalement,
jonction à Bunny, là, ouais.
le titre de la Justice League, c'est quand même un truc où tu t'attends, quand tu le prends, à voir un petit peu la Justice League. Et là, ça fait quand même trois numéros que
Bah,
tu
tu
la
les vois, mais
vois un
tu
petit
vois
peu.
la version Terre 3, en fait.
Oui, voilà. Enfin, tu les vois, oui, tu les vois, ouais, même pas d'ailleurs. Je sais même pas
Tu
si
vois la version de la
Batman.
Justice League, mais la version Terre 3. Donc on est quand même dans le ton.
Ouais, mais c'est un peu bizarre quoi, et ça donne cette impression qu'on fait du sur place, puisque on a les origines, donc par là même l'histoire présente n'avance pas.
C'est vrai aussi. Après, moi, ça
Bah,
reste
elle
vraiment
avance sur la
encore.
dernière page.
Ouais, ça
Ouais.
avance un peu la dernière page. Ça reste quand même, moi, le titre qui me plaît le plus dans l'Event Forever Evil pour l'instant. Justice League
Ah
et.
bah c'est sûr que c'est le plus intéressant parce qu'on a envie de découvrir à chaque fois l'origine des uns et des autres.
Puis y a ce côté assez trash qu'on n'a pas dans les autres titres, un côté très violent par moment,
Ouais,
ça,
assez hardcore.
qui est assez hardcore et qui du coup est intéressant aussi pour nous amateurs un peu de chair fraîche et de gore.
Bah, dont on avait déjà parlé dans le numéro 25, hein.
Mais ouais, c'est clair parce que quand on
Signalons d'ailleurs
voit,
qu'ils ont rattrapé leur retard.
ouais, on voit Johnny Quick et Atomica, il nous présente vraiment des vilains ultra ultra
Bah,
méchants avec.
c'est tueur né, quoi, tout
C'est
simplement, hein.
ouais,
Il s'est pas
c'est
vraiment
ça.
fait chier au niveau
Non.
inspiration.
Il s'est pas fait chier, il s'est pas fait chier. Mais bon voilà, enfin, en tout cas j'ai trouvé ça plaisant à lire et très joli.
C'était plus malin et plus inventif pour Powering,
Oui,
finalement.
oui.
Moi, j'ai toujours un problème par rapport à Cyborg. Je trouve qu'à la rigueur, il essaye de nous rendre Grid intéressant par son problème de ne pas ressentir des émotions, etc., et d'être en quête d'émotions. Mais pour autant, ça ne rend pas plus intéressant Cyborg, puisque c'est pas Cyborg, c'est Grid. Tu voyez ce
Bah,
que je veux dire?
Grid est une sorte de Red Tornado finalement.
Oui, voilà, c'est pas vraiment le même personnage. Et puis bon, son design me fait furieusement penser à Cyborg Superman.
Ouais, bon, ouais, puis c'est un rip-off un peu de Terminator aussi, hein.
Oui,
bien sûr, oui, au
Bah, de
point
toute
de vue
façon,
design,
Cyborg
oui.
Superman, c'était déjà le cas,
Ouais,
hein.
déjà, bah oui, totalement. C'était vraiment, ils avaient dit, oh tiens, ce serait cool de dessiner un Superman à la Terminator, et puis ils se sont dit, bon, on va le garder, on va faire une histoire.
Mais ce côté, j'ai pas d'émotion, c'est très Red Tornado, et comme tu l'as dit, très Cyborg Superman, qui cherchait juste à mourir, en fait.
Oui.
Spoil pour la Sinestro Corps War d'il y a 5 ans.
D'aller dans l'espace et mourir.
Donc, enfin voilà, il y a des bonnes idées, je trouve, mais encore une fois, ça n'avance pas des masses, même si ce numéro, je trouve plus intéressant du point de vue de l'event que Forever Evil.
Oui, puis il nous tient grâce à des petites choses qui sont placées, comme peut-être l'importance de Grid, le rôle de Superwoman sur justement ce personnage masqué. Il y a un petit peu plus de petits indices et de petites choses qui nous donnent envie de lire la suite dans ce numéro-là que dans Forever Evil, je trouve.
Et puis bon, Ivan Reis, quoi.
Et voilà, Ivan Reis, ouais.
Ce qui, comme tu l'as dit aussi, Bunny, hein, Cyborg, je sais pas pourquoi il fait une fixette sur ce personnage. Je comprends pas, quoi.
Non.
Vraiment,
Non.
ça me
Puis,
déprime.
ouais. Non, je vois pas. J'allais dire quelque chose, mais c'est un petit peu spoilant, donc je vais rien dire.
Parlons très vite, avant de donner la note du What's New in the New 52, enfin
Ah, putain.
du Channel
Ouais.
52, pardon,
Ben,
autant pour
c'est
moi.
pas le même que la semaine dernière, par hasard?
Non, mais non, justement, et c'est bien le problème.
C'est marrant, j'ai cru.
Ben non, celui de la semaine dernière, c'était un qui nous avait déjà foutu la semaine d'avant. Et là, cette fois-ci, c'est celui qui concerne Justice League 3000 qui est sorti la semaine dernière. Alors, je sais pas, ils se sont
Après,
plantés.
il y a en fait chaque semaine, il y a deux ou trois, enfin en fonction des magazines qu'on lit, il n'y a pas toujours le même What's New in the New 52 en fait. C'est vrai
Bah
que
là,
celui-là,
Justice League, Justice League 3000, Steve, est pas sorti la semaine dernière, il est sorti il y a 2 semaines. La semaine
est
dernière, on n'en
sorti il
a
y a
pas
deux
fait.
semaines, pardon, autant pour moi. Ah
Ouais.
bah, en plus.
Mais ça reste une double splash page complètement inintéressante.
Ben, ça aurait été intéressant la semaine de la sortie de Justice League 3000. Alors, ça m'étonnerait que sortir ça maintenant redonne un coup d'intérêt pour ceux qui auraient raté la sortie de Justice League 3000. Je pense que ceux qui étaient intéressés l'ont acheté tout de suite. Ou l'ont acheté la semaine d'après en voyant des reviews par-ci par-là. Mais c'est pas maintenant qu'il faut remettre un coup pour relancer le titre. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. En bon, plus là on a Channel 52 000 finalement, mais bon,
Ouais.
peu importe. Je trouve que voilà, encore une fois, c'est raté, quoi.
Ouais, c'est pas grave.
Chaque semaine, de toute façon, c'est raté. Donc voilà. Je crois
Ce serait bien que ça vire l'année prochaine, quoi, en
il y
fait.
avait que la page sur le Thanksgiving de Batman qui donnait pas mal de petits indices concernant Batman Eternal qui était vraiment intéressant, quoi.
Ouais. Ouais, voilà, il faut qu'ils fassent des doubles splash page un peu, qu'ils font des previews de futurs titres, mais Channel of New 52, c'est vraiment tout pourri, quoi.
Ouais, ou un moyen de raconter ce qui se passe vraiment, mais vraiment bien, dans le reste de l'univers DC, faire un petit point pour ceux qui ratent les titres ou leur donner envie, ce qui était censé faire au départ, qui marchait plutôt bien sur les premières semaines, et qui s'est très vite tourné en merde.
C'est
Voilà.
ça.
Donc ce Justice League, qu'en avez-vous pensé au niveau de notes?
Bah, un bail pour moi.
Pareil pour moi, hein, un gros bail.
Ouais, un bail.
On va passer à la partie indé maintenant. La seule sortie indé que nous allons traiter, c'est The Saviors, qui est sorti chez Image, le nouveau scénario de James Robinson, avec au dessin J-Bone, que je ne connaissais pas et que j'aurais aimé ne pas connaître, personnellement. J'ai détesté. Je déteste le dessin. C'est underground. C'est pas indé, c'est underground, et j'aime pas ça. Franchement, ça m'a... J'ai eu du mal à rentrer dedans à cause de ça. L'histoire, on en avait parlé rapidement déjà dans un weekly news, puisqu'on avait parlé de cette série en début décembre. C'est l'histoire de Tommy, qui est une espèce de loser qui passe son temps à se défoncer à coups de pétard et à boire, et qui, de temps en temps, bosse à la station-service, qui va rencontrer des aliens infiltrés sur Terre. Et va essayer de s'échapper. Grosso modo, voilà le résumé très 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 succinct du premier épisode.
Des aliens lézards, en fait. Des espèces d'hommes lézards.
Ouais.
Et, un peu comme toi, Steve, j'ai été rebuté par l'aspect initial. Alors, c'est du noir et blanc, hein, déjà, aussi, précisons aussi.
Oui.
C'est du noir et blanc, mais en plus, avec un style super indé underground. C'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans pour ça.
C'est un peu exagéré, le côté underground, là, je trouve. Enfin...
Par rapport aux comics qu'on lit en règle générale, c'est quand même vachement vachement différent.
Personnellement, ça donne un côté un peu comics amateur au niveau du dessin.
Moi, je sais pas.
Dire que c'est un mauvais dessin. Attention, je dis juste que ça donne un côté amateur.
Moi, je trouve pas que ça fasse underground. Je suis d'accord pour tout ce qui est le lettrage que j'ai pas trouvé.
Et oui, voilà. Alors, j'allais y venir. Oui.
Mais le lettrage aussi. Moi, ça me fait plus penser peut-être à du Darwin Cook, un petit peu plus cartoony, quoi. Mais
T'y vas fort. Parce que
j'ai pas trouvé ça rebutant, quoi, le dessin. Mais le lettrage, je suis d'accord, il y avait des moments où il y avait des mots qui étaient pas séparés, enfin, c'était un peu illisible par moment.
Ouais, on est d'accord tous les trois sur le lettrage, hein.
Ça a été laborieux pour lire ça, enfin, et pour m'y mettre, parce que limite, parfois, je me forçais sur certaines bulles, je me disais, oh là là, je déteste ce type de lettrage, t'as du mal vraiment à lire, quoi.
Les lettres sont tordues,
chiant.
Quoi. C'est pas,
oui, c'est
pas
ça. Agréable. C'est pas agréable.
Ce qui est bizarre, c'est que quand tu regardes la cover, qui est pourtant par J-Bone, le style est vachement mieux rendu, je trouve, sur la cover. Il y a un meilleur effort sur la cover que sur les intérieurs.
Et bon, pour autant, à moins que Steve, que tu
non, vas-y, je t'en prie, vas-y.
Oui. Pour autant, moi, je suis rentré dans l'histoire, malgré tout. Et c'est d'autant plus dommage que si ça avait été dessiné avec autrement, avec un autre style, un peu plus commun à ce qu'on connaît d'habitude, quoi, à ce qu'on voit d'habitude, j'aurais sans doute plus accroché à ça, puisque j'avais l'impression, en fait, de mater un petit peu les quelques premières minutes d'une série télé, quoi. Il y a un petit mystère qui se met en place, il y a de l'action, ça part d'un seul coup au quart de tour au moment où tu t'y attends pas forcément.
J'attendais ce moment où ça allait partir, puisque j'étais un petit peu au courant de l'histoire. Et justement, ne le voyant pas partir, je me suis dit ça me gonfle un peu. Moi, personnellement, j'ai lu en deux fois, hein. J'avais commencé hier et ça m'a tellement gonflé que j'ai arrêté, quoi. Et je l'ai fini là tout à l'heure avant l'émission.
Presque
à contre-cœur. Bon, après, je suis rentré dedans, mais je m'y suis remis presque à contre-cœur en me disant je vais le lire pour en parler, sinon j'aurais arrêté, quoi.
Ouais.
Après, je regrette pas ma lecture. Je regrette pas du tout, mais. C'est pas le James Robinson auquel je suis habitué. Bon, en même temps, c'est un univers créé de toutes pièces, c'est un projet creator-owned. Donc, il faut peut-être lui laisser le temps, mais j'ai pas retrouvé le Robinson qui m'avait bluffé sur des choses comme Earth 2, sur Starman, où dès le premier numéro, t'as quelque chose de vraiment différent.
C'est-à-dire que le scénario manque vraiment d'ambition. C'est un truc très classique qu'on aurait pu imaginer nous-mêmes n'importe quand. Reste à voir où ça va aller, parce que rappelez-vous le tout premier numéro de Walking Dead. Alors bon, de là à le comparer à Walking Dead, je dis pas que ça aura la longévité d'un Walking Dead, hein, mais on sait jamais. Le premier numéro de Walking Dead, c'était vachement classique. Ça surprenait aussi par le côté noir et blanc, et puis les dessins de Stuart Moore, non, je sais plus. Comment s'appelait-il?
Terry Moore,
voilà.
Tony Moore
était un petit peu particulier aussi, hein, comparé à ce qu'on pouvait voir d'habitude.
À l'époque, c'était un peu plus novateur. Aujourd'hui, des séries de zombies, on en a eu 150 000 depuis le succès de Walking Dead.
Bien sûr,
mais là... Le zombie était tellement en perte de vitesse à l'époque. Là, on peut pas dire que le sujet des aliens soit vraiment en perte de vitesse en termes de comics. On en a un petit peu partout, tout le temps.
Ouais, en même temps, faut voir où il va avec ça. Là, effectivement, il pose vraiment un scénario super classique.
Ouais.
Faut voir si par la suite il va nous surprendre par quelques petits rebondissements. C'est là vraiment la manière du premier épisode de Walking Dead, on suit un personnage. Voilà.
Alors on sait que par la suite on ira dans d'autres endroits du monde suivre cette invasion sous-jacente des aliens avec d'autres personnages. C'est censé être une série régulière. Moi je laisse le bénéfice du doute parce que c'est Robinson, honnêtement. Et uniquement pour ça.
Moi, j'ai été agréablement surpris. J'avais pas du tout lu le synopsis avant de découvrir ce numéro, et j'ai trouvé le ton au départ assez plaisant, un petit peu d'humour avec ce personnage complètement défoncé. On voit une petite ville américaine comme ça isolée, tout d'un coup, il y a un élément un peu surnaturel qui rentre dedans. Après, c'est pas original, ça a pas l'air d'avoir une énorme ampleur. Il y a un petit côté une invasion de Los Angeles, un truc comme ça. Mais voilà. Bah, après, il y a J'ai trouvé graphiquement, moi j'ai bien aimé le style des dessins. J'ai trouvé que l'action du coup était plutôt bien mise en scène, mais c'est juste le manque d'ampleur moi qui m'a un peu gêné. Si tu me dis que par la suite on va avoir d'autres personnages ailleurs, peut-être qu'on aura droit à un truc un petit peu plus étendu.
Alors
Mais
après, ils formeront la résistance et ils iront se battre contre Diana. Ah non,
voilà.
pardon,
Alors
c'était
c'est
une autre
exact.
série, pardon.
Non, non. Après, ils vont comment dire? Ils vont former un petit groupe. Hein, le mec va rejoindre un mec,
Ils vont
va
chercher
rejoindre des
l'enfant
gens dans des
stellaire.
caravanes. Ensuite, ils vont arriver dans une prison à un moment donné, même.
Mais voilà, c'est un titre plaisant, on va dire. C'est pas la surprise de la semaine, c'est pas le truc que je conseillerais vraiment le plus chaudement du monde, mais en tout cas c'est plaisant et pas désagréable à lire.
Bah, disons que je verrais bien ça à la télé ou au cinéma, quoi. C'est assez marrant parce que paradoxalement, ça n'a pas du tout le style, mais l'histoire s'y prêterait bien. Ça ferait un petit truc sympa à mater. Là, c'est vraiment les dessins qui sont avec lesquels j'ai du mal.
Ben ouais, pas mieux. Ben pour moi, la meilleure scène étant celle au départ où ils discutent avec un lézard, mais pas forcément un alien. Ah, vous verrez en le lisant, mais j'ai trouvé que c'était voilà, et il y avait cet humour au départ. Je me suis dit ah, et puis quand j'ai vu que cet humour commençait à partir, je me suis dit, bon.
C'est une façon habile, je trouvais, de pouvoir présenter le personnage et les gens de la ville et tout. Donc, effectivement.
Ben, moi, pour ma part, ce sera qu'un check-it. Voilà.
Moi, un check-it plus.
Ah carrément. Bah moi j'allais dire, j'allais même dire un petit bail quand même pour essayer.
Ah ouais?
Parce que bon, ah ouais. Bah parce que
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine?
certes moi je n'aime pas le style graphique, mais il y en a peut-être qui vont adorer. Et donc ce serait dommage de passer à côté, sachant que l'histoire est pas vilaine non plus quoi.
Bah,
Non
c'est
moi
pour
je.
ça que je dis un check-it, quoi.
Ouais.
Regardez-le en magasin avant de l'acheter et voyez si ça vous intéresse.
Mais allez, moi je vais mettre même un petit bail d'encouragement.
Allez, on va passer maintenant à Marvel et on va débuter avec une des grosses sorties de la semaine. De toute façon, il n'y en a que deux. Il y en a qui se font pas chier, hein. C'est les vacances, hein, disons pour certains. C'est le Avengers numéro 24.now, Mister Anemone.
Ouais, alors pour ceux qui comprendraient pas ce que ça veut dire, bah prenez-le comme un épisode classique, hein. Voilà, c'est tout.
Oui.
En gros,
Un début d'arc.
un début, ah pas forcément. Moi, je vois plus ça comme le numéro spécial qu'ils avaient fait pour annoncer le retour d'Ultron. Il y a très longtemps, longtemps avant Age of Ultron, mais enfin voilà, c'est un épisode qui annonce quelque chose. Peut-être qu'on verra pas arriver avant 6 mois, 1 an, quoi, à mon avis. On verra. Donc Jonathan Hickman est au scénario et au dessin. Alors par contre, il y en a une petite bande. Essad Rivik, Salvador Larroca, Mike Deodato et Butch Geese. Butch Geese.
Attention, c'est du lourd quand même, hein, au niveau du
Ouais,
dessin.
ouais, ouais. Et graphiquement, c'est vraiment pas mal. Alors. L'épisode m'a fait penser à plusieurs choses qu'on a vues dans les Avengers ces dernières années, principalement au début du dernier run de Bendis sur les Avengers avec, rappelez-vous, Kang qui revenait du futur, il y avait aussi ce Iron Man du futur, enfin ce Tony Stark du futur, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Alors là, au fait, c'est simple, on a une espèce d'Iron Man dans l'an 3030, on ne connaît pas vraiment son identité. On sait que c'est un descendant enfin, on comprend assez rapidement que c'est un descendant de Tony Stark. Non, pas de Tony Stark justement. Mais enfin bref, je vous laisse découvrir ce que c'est.
Bah,
Et
disons que son surnom c'est Rodé, hein.
oui, voilà.
Ouais.
Donc bon, on a compris que c'est de l'entourage en tout cas de Tony Stark. Et on retrouve bah, le fils dont j'ai oublié le nom, le fils Richards là.
Franklin.
Franklin Richards, que Hickman adore utiliser. et qui envoie donc ce Iron Man dans le passé retrouver l'équipe des Avengers donc de Hickman, cette fameuse équipe qui compte à peu près 562 membres bon avec quelques volontaires aussi et
22
quelques
techniquement.
Oui,
parce qu'il
voilà.
En manquait encore deux.
Oui. On ne les compte plus. Enfin, de toute façon, Tony Stark dit, en grosso modo, c'est assez marrant parce qu'il dit dans cet épisode à Captain America qu'on s'en fout et que de toute façon, ils peuvent les remplacer n'importe quand, que c'est pas vraiment important, que chacun peut avoir un rôle déterminé à tel moment donné. Donc, bon, bref. Toujours est-il que ce Iron Man futuriste les prévient d'une menace qui arrive. Une espèce de planète va rentrer en collision avec la Terre si jamais ils n'interviennent pas.
Et ce n'est pas égaux.
Ce n'est pas égaux. C'est bah voilà. Donc c'est une planète quoi qui arrive comme une grosse comète dans la trajectoire de la Terre. Et donc ils vont tous un petit peu se mettre en branle pour essayer d'empêcher ça. Ils vont sans surprise réussir à empêcher la catastrophe. Alors chacun comme d'habitude avec Hickman, enfin chacun. Presque chacun va jouer un petit rôle pour comme ça Hickman permet de montrer que bah regardez tous les membres ont un rôle à jouer dans cette équipe, c'est formidable. Moi, dès le début, je me suis dit cet Iron Man du futur se fout de la gueule du monde, à mon avis, c'est lui qui a tout provoqué pour que justement il fasse ça et parce qu'il a un but bien précis et il est en train de les entourlouper et personne ne se doute de rien. On verra par la suite. Toujours est-il que on a la révélation de qui est cet Iron Man futuriste, je vais pas dire qui c'est évidemment. Bah, c'est intéressant, bon, ça peut amener des choses. Enfin voilà, globalement moi c'est un épisode qui m'a d'un bout à l'autre quand même qui m'a bien bien accroché. Maintenant ça reste quand même assez classique tout ça, je trouve. C'est le type d'intrigue qu'on a vu dans les Avengers ces dernières années. J'ai l'impression que il nous fait un truc à la Bendis. Ça m'a fait penser, voilà, un scénario à la Bendis, quoi, d'un seul coup.
Ah, tout ça parce qu'il partage un barbecue en haut du Baxter
Alors,
Building, c'est ça?
Moi, j'étais très content déjà de revoir une petite scène un peu, on va dire, familiale, comme
ouais.
ça, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu.
C'est vrai.
Premièrement. Parce que ces derniers temps, ils étaient plutôt en train de se foutre sur la gueule, ou avec Hickman occupé à des choses absolument épiques. Voilà, et ou alors, dans les derniers temps, avec Bendis, les équipes étaient vraiment séparées, on n'avait pas forcément de scène de barbecue comme ça. Il y a un petit truc aussi que tu n'as pas mentionné et qui, bah, pour moi, je l'ai vu comme un symbole comme ça. J'ai l'impression que Hickman dit c'est terminé la période Bendis puisque Cap vire Wolverine et Spider-Man de l'équipe. Qui était quand même le gros renouveau de l'équipe Avengers.
Si je peux me permettre.
J'y
si
vois
je
tout
peux
un symbole en fait.
Ouais, si je peux me permettre, il vire surtout Wolverine puisque. Peut-il virer Spider-Man dans le sens où ce n'est plus lui,
bah,
ce n'est plus celui qu'on a
ce
connu.
C'est ce qu'il fait un peu, hein, mais
oui, non,
mais
enfin, je veux dire, de toute façon, qu'il le vire ou pas, c'était plus Peter Parker, donc de toute façon, voilà.
Mais techniquement, on
ne
verra plus dans les Avengers Spider-Man. Mmh. Donc j'y vois là deux symboles. Premièrement, se débarrasser de ce qu'a fait Bendis, c'est-à-dire quand même apporter Wolverine et Spider-Man sur les Avengers quand il arrivait en 2004.
Mais moi, je pense pas que ce soit à cause de Bendis, tu vois. Je pense que c'est à cause du cinéma.
Et à cause du cinéma, voilà, c'était voilà. les deux points, les deux symboles que je vois se débarrasser de ces deux personnages-là.
Qui ne seront jamais dans les Avengers au cinéma, en tout cas pas demain, quoi.
Pas tant que Sony aura la licence Spider-Man, ni que la Fox aura la licence Wolverine.
Exactement, ah ouais.
Donc,
moi je pense que c'est surtout pour
deux symboles, en fait, mêlés. En revanche, tel qu'il nous l'avait dit dans une interview assez récemment, ce numéro 24.now n'est absolument pas un jumping point, malgré ce que essayait de dire Axel Alonso pour rattraper le coup au niveau de la com. Ce n'est pas du tout un jumping point. Si vous n'avez jamais lu les Avengers d'Hickman, c'est lisible, mais vous avez intérêt à connaître un tout petit peu les Avengers quand même.
Bah, c'est un jumping point, je te dis, comme ce qu'avait fait Bendis avec le retour d'Ultron dans ce numéro 13. Je sais plus quoi.
C'était le 12.1 qui a été
12.1, voilà, c'est ça.
Dans le dernier numéro d'Age of Ultron d'ailleurs.
Voilà, voilà. Deux ans avant la sortie au final d'Age of Ultron, mais toujours est-il que ça fait penser à ça. En fait, je pense que c'est vraiment l'intrigue d'un futur arc, d'un futur event peut-être même qui va mettre en place.
Ah, c'est. Mmh. Ouais.
Bruno.
Mais encore.
Ouais, ouais. Moi je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé le numéro. C'est vrai, peut-être pas super facile d'accès pour de nouveaux lecteurs.
Tant mieux, hein, je m'en fous des
même
lecteurs,
si au même si au final quand même on s'y retrouve, ça reste quand même un début d'histoire. Voilà, c'est juste qu'il y a pas mal de personnages qui sont dans les Avengers que si on n'a pas lu les précédents numéros d'Hickman, on les connaît pas, enfin que ce soit Starbrand et compagnie. Mais sinon j'ai trouvé l'histoire très intéressante avec une menace qui une menace en fait qui n'était pas une menace naturelle. Cette planète avait été peut-être envoyée pour détruire la Terre, donc c'est quelque chose d'intéressant.
Par soi
Et en
Iron
plus,
Man, selon moi, mais bon, c'est pas grave.
peut-être. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, ça ne dure qu'un numéro, ça. C'est vraiment effectivement un prologue à un autre événement. Et rappelez-vous le premier numéro d'Avengers où on avait cette terre dévastée avec des tonnes de cadavres de personnages avec des armures d'Iron Man. Ça nous prépare sans doute à cette fameuse histoire. Donc Hickman avait vraiment cette histoire depuis un an dans la tête. Donc voilà, ça nous montre effectivement que les Avengers fonctionnent bien entre eux. Ça nous montre qu'il y a de la place pour de nouveaux personnages pour l'équipe. Il faut encore penser plus large. Voilà, mais non, c'est plaisant, un bon numéro pour commencer cette nouvelle ère Hickman. Après
Notons
Infinity.
l'utilisation quand même très rare du marteau de Thor qui sert juste à appuyer sur un bouton.
Mais c'est vrai.
C'est pas souvent qu'on voit Thor juste appuyer sur un bouton et non pas mettre
Ouais.
son marteau dans la gueule à quelqu'un.
Ah, c'est juste pour un effet de style, quoi.
Oui, mais
Vraiment, le style.
j'ai trouvé ça sympa, tu vois. J'ai
Le
trouvé
mec,
ça sympa, je me suis dit.
il allume sa Xbox avec son marteau, quoi.
Je me suis dit, voilà, ça m'a fait marrer de voir Thor presser ce bouton avec son marteau. Parce
Mais,
que merde, on est un viking, quoi.
par contre, j'ai envie de vous dire, encore un voyage dans le temps. C'est voilà.
Oui.
Marvel, ils disaient, ils étaient les premiers à dire, merde, on a déconné, il y en a trop eu, du coup, ça a bouleversé le time stream. Et bah, rebelote. Hein,
Ouais, c'est
c'est
le
pas
premier
grave.
truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, putain, ils persistent ici, les mecs, quoi.
C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quasiment plus de, il y a plus de d'histoires avec du voyage dans le temps que d'histoires sans, quoi.
Classique, ouais. C'est
Bah,
vrai,
il y a
ça,
des
j'étais
histoires
un petit
sans,
peu déçu
sans
là-dessus
déconner.
aussi.
Il y a des histoires sans voyage dans le temps chez Marvel?
Ça doit quand même arriver, mais c'est vrai que ces dernières années, il y en a eu énormément, et puis là, je suis en train de rattraper des séries que j'avais pas lues, comme Captain Marvel, donc Carol Danvers, qui voyage dans le temps, la fin des Thunderbolts par Jeff Parker avec du voyage dans le temps,
Ouais. Mais
mais oui,
c'était pas mal par contre.
mais c'est pour ça,
c'était bon, hein,
le
c'était
time
sympa
stream a
ça.
été cassé et du coup, voilà.
Bah
Ah
oui,
non,
mais du
c'était
coup, il
avant que le
continue.
time stream soit cassé, ça.
Ouais, mais du coup, il continue, et voilà, c'est ça qui me fait marrer, quoi. Donc bon.
Mais non, l'épisode est vraiment très bon, servi par des dessins magnifiques. Vous avez 12 millions de variants de cover si vous avez envie.
C'est
Je
vrai.
pense que vous pouvez trouver au moins une variante cover qui vous plaît, vu le nombre de dessinateurs qu'il y a. Et puis, il y a cette magnifique page faite par Daniel Acuna, la Mega Fold-Out Variant Cover.
Tout à fait, tout
Ouais.
à fait. Qui est un
En,
peu difficile
je
à
sais
trouver,
pas,
mais...
58 volets, je crois,
C'est
à
ça,
peu
ouais.
près.
Et puis, il y a aussi Alors, j'ai pas testé, hein, parce que d'habitude, je les récupère les codes, mais le code qui, a priori, nous permet d'avoir les 5 premiers numéros d'Avengers. Code
Oui, c'est
digital.
vrai qu'il y avait ça aussi.
Donc, ce qui est aussi un bon petit bonus, sachant que le numéro est quand même à 1 $ de plus que d'habitude.
Bah, si vous achetez une version normale, il est à 3,99. Pour la version avec la couverture régulière de Essa Dribitsch, il est à 3,99.
Ah, je crois pas. Je crois qu'il est
Ah bah
à...
moi je le vois sollicité à 3,99 en tout
Ah, bah, je
cas.
crois qu'ils ont changé d'avis après la sortie, puisque on l'a reçu là et il est au même prix que les autres.
D'accord. En tout cas, moi je trouve que c'est un très bon numéro. En plus, alors c'est censé être le début d'un arc hein, quand même, c'est Rogue Planet Part 1 of 5, hein, d'après ce qui est sollicité. Même si franchement, ça aurait pu s'arrêter là et partir sur notre histoire, ça aurait été cool, parce que c'est presque un numéro en un et c'est trop rare. Trop rare. Vraiment bonne surprise, un numéro qu'on aurait presque pu voir en FCBD.
Tout à fait.
C'est un peu ce même aspect-là. Bon, vous le payez, mais ça vaut le coup. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, gros bail.
Ouais, gros bail pour moi aussi.
Ouais, pareil, j'ai passé un bon moment. J'ai été surpris d'ailleurs, puisque je me disais, oh, mince, je sais pas, j'ai pas tellement envie. Et puis non, finalement,
Bah,
pratiquement l'une des meilleures lectures de la semaine.
la meilleure lecture de la semaine pour moi.
Ouais, tout à fait, moi aussi.
Ouais, bah pareil. Surtout en réfléchissant, tu sais, à ce qu'on a lu et à ce sur quoi on va parler maintenant, ce de quoi on va parler, pardon.
Eh bien, on va terminer, hein. Tu en parles maintenant de Origin numéro 2, écrit par Kieron Gillen avec des dessins d'Adam Kubert. La suite de Origin, ce qui nous avait révélé enfin les véritables origines de Wolverine et son nom, qui, rappelons-le, est James Hamlet.
Ouais, bien sûr.
Voilà, petite vanne, petite boutade.
C'est la musique de Prodigy. C'est une omelette, let, 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 let.
Oh putain!
Mon Dieu.
Voilà.
Eh bien, c'est du niveau de ce. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, parce que j'ai pas trouvé ça déplaisant.
Ah bon?
Un peu cher. En revanche, 4,99. J'ai trouvé
Ouais,
un
mais
peu cher
alors,
pour ce que
ouais,
c'était.
effectivement, effectivement. Alors après, c'est encore l'arnaque façon couverture hyper classe, c'est-à-dire qu'on a droit à une couverture qui est double acétate, c'est-à-dire transparente, qu'on peut soulever, qui est vraiment sublime. Hein, et puis c'est vraiment en plastique le truc. Mais de là à devoir payer autant, effectivement, pour un premier numéro, c'est un peu chiant.
L'histoire, eh bien, on est en 1907, hein, ça se situe après Origin numéro 1.
T'es sûr qu'il y en a une d'histoire?
Et bah, en tout cas, le début de cette histoire. Et eh bien, Wolverine est avec les loups.
Ouais, c'est
C'est
mouglé, quoi.
original.
Et devinez ce qu'il fait. Eh bien, non, il ne danse pas, il chasse.
Ouais.
Ouais. Bah,
Il
il aurait
chasse
mieux
avec les
valu
loups.
qu'il danse, ça aurait été plus drôle.
Bah, c'est Mowgli, quoi. Moi, j'avais l'impression de lire le livre de la jungle.
Non, mais c'est surtout si t'as lu du Wolverine, c'est surtout la 356e fois qu'on voit cette histoire où Wolverine vit parmi les loups.
Ouais.
On y rappelle-toi, elle a eu tellement sa mémoire effacée qu'en fait, il revenait toujours à ça. Peut-être, je sais pas.
Mais
J'essaie de trouver un
nous on
truc.
l'a pas eu effacé. C'est ce que les auteurs,
Malheureusement.
c'est ce que les auteurs oublient justement quand ils nous resservent des histoires
On est
pareilles.
peut-être des cas sociaux, ça fait 15 ans qu'on lit des comics, voire plus, c'est peut-être pour ça, peut-être qu'on n'est pas censé lire des comics pendant plus de 15 ans, on devrait peut-être en lire 2 ans dans notre vie puis s'arrêter. Je
C'est
pense
ça,
peut-être, c'est
c'est
peut-être à ça
ça.
qu'ils pensent les auteurs.
Je pense qu'ils ont l'impression que c'est effectivement cyclique et qu'à chaque film, c'est des nouveaux lecteurs qui arrivent.
En revanche, il y a de superbes pages.
Ah,
Oui, bah,
c'est sublime,
d'accord,
c'est
mais...
sublime, c'est
Oh
sublime.
bah
En plus, ça
attends,
joue,
on a vu
énormément
d'Adam
sur le
Kubert,
Ouais.
moins inspiré que ça ces dernières années,
Non,
hein.
non, mais c'est beau, mais franchement, à ce moment-là, qu'il nous sorte un artbook, un sketchbook sur Wolverine, quoi, s'il veut. Mais là, excuse-moi, mais ça s'appelle Origin 2. Alors déjà, le titre me fait marrer. Origin 2. Généralement, on a une origine. Origin 2. Ok, d'accord. Bon, bah, faudrait qu'il nous explique un petit peu pourquoi.
Bah parce que il faut faire du fric.
Ouais, voilà. Non, mais c'est surtout
Parce que
ça, voilà.
Wolverine n'a plus autant la même aura qu'il a eu fut un temps. Je veux dire, certes, on continue de voir Wolverine partout, mais Wolverine, c'est plus le personnage qui fait vendre à tout prix, j'ai l'impression, chez Marvel. Et peut-être qu'ils essayent de repartir là-dessus.
Alors, non, mais c'est surtout que pourquoi nous faire une suite à Origine s'il n'y a rien à raconter? Parce que là, concrètement,
Ah, mais
ah
je suis pas
si,
forcément d'accord.
c'est juste que c'est l'épilogue, quoi. Enfin, c'est le prologue, pardon, excusez-moi.
Oui, mais
Regarde bien la dernière page, tu as peut-être manqué un détail.
faut que ça donne envie quand même. Parce que moi, ça me donne pas
Bah.
du tout envie d'aller voir la suite.
Ah, bah
Mais.
si, oui,
C'est ça le
bah comme dit
problème.
Steve, il y a quand même un détail
Alors.
marquant qui te
Je vais
prépare la
vraiment
suite.
résumer. Je vais vraiment résumer l'histoire parce que c'est vrai qu'on a juste survolé. On a dit il chasse avec les loups. Il n'y a pas que ça.
Ouais, quasiment.
Il va voir un ours polaire arriver
Super.
et
Mal en point.
cet ours polaire va provoquer quelques problèmes avec sa meute, comprendre tous les décimés.
Là,
C'est
tu
un
viens
ours
de
polaire
quasiment
mal en
en point
point.
qui a l'air hagard
Ah,
et
cette page à la sortie de la caverne avec l'ours qui tient les bébés loups dans les mains tout ensanglantés, elle est juste sublime, quoi.
elle est sublime, elle est sublime. C'est très beau. Et puis il y a vraiment ce jeu entre le blanc de la neige et le sang rouge qui est vraiment bien bien développé. Et la mise en scène, par exemple, ce bout de chair qui vole, j'ai trouvé la scène vraiment très belle.
Ouais, non, il y a de très 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 belles pages. Et bon, arrive le titre genre à la fin. Ça,
Ouais,
par
non.
contre, non, on a passé
Moi
d'une
je me
très
suis
longue
dit
séquence de film, quoi.
je me suis dit ah tiens, ça y est, ça va commencer, il va y avoir quelque chose.
Mais il y avait une
Puis
petite
bah
surprise,
non,
c'est
c'est la
que
fin.
ça arrive à la fin, mais t'as quand même encore une scène post-générique. Et j'étais content d'avoir encore de l'histoire derrière ce titre.
Y a ce détail que j'avais, bah, si on est attentif, on le remarque dès le début, on se dit qu'il y a un truc qui cloche avec cet ours, et on le comprend sur la dernière page, et c'est de là que va démarrer l'histoire, clairement.
Ouais, mais pour autant, justement, le premier numéro d'Origin, la première saga par Paul Jenkins, bah, il te plaçait vraiment plein de persos, il y avait vraiment une intrigue que t'avais envie de, enfin, ça donnait vraiment envie de suivre ça, et surtout, il te racontait un truc qui n'avait jamais été raconté. Là, c'est une histoire qu'on a déjà vue sur Wolverine. Certes, il y a ce mystère à la fin, mais pour autant, C'est autour de quelque chose qu'on connaît plus ou moins. Enfin, moi, ça m'a pas du tout envie d'aller voir la suite. Honnêtement, ça m'a pas du tout donné envie d'aller voir la suite. Je sais même pas si je lirai la suite de ce truc-là. Pour
Ah,
un
moi,
premier
si,
numéro,
sûr.
j'ai trouvé ça super faible, quoi.
Alors, c'est vrai que sur le premier numéro d'Origin, il y avait ce jeu à savoir qui est Logan. Ça,
Qui est
c'est ça
Logan?
qui
Non, mais il y
est,
avait,
c'est ça qui était très fort.
ouais.
Parce que tant que tu ne sais pas que qui s'appelle James Ouellette, et à l'époque, on ne le savait pas, effectivement, t'avais ce jeu, tu te dis, ah bah c'est lui, c'est lui. Et en fait, bah il y a un retournement de situation qui fait que tu te le prends en pleine face. Mais là, le retournement de situation, je pense qu'il viendra pas, non pas dans ce premier numéro, mais dans les suivants. Et peut-être qu'on va découvrir des choses sur d'autres personnages. D'ailleurs, en plus, on nous tease l'arrivée d'un personnage dès le prochain épisode bien cher à la mythologie Wolverine. Effectivement. Mais l'autre personnage, je vais pas trop en teaser, mais enfin, la révélation de la dernière page va peut-être faire changer la donne concernant ce personnage-là.
Ouais, tout à fait. Non,
Et
moi
le
j'ai
fait
trouvé
qu'il
ça intéressant.
s'intéresse
Ouais.
à plus ou moins de choses. Enfin, bref, je veux vraiment pas trop spoil, donc je fais attention à ce que je dis. Mais je suis attiré pour aller voir la suite justement à cause de ça. Et j'espère que ce sera pas le pétard mouillé en revanche.
Bon, bah
On verra.
écoute, moi je ça m'a pas du tout, mais vraiment pas du tout intéressé.
Bah c'est sûr qu'on n'est pas au même niveau que le premier, ça clairement. Mais de toute façon, avec un
Là.
truc qui s'appelle Origin 2, comme tu l'as dit, comment veux-tu que... Voilà. Mais toi, Bruno, tu n'as jamais lu le premier Origin.
Alors le premier, je n'avais lu que le premier numéro, effectivement, celui justement avec la découverte de Wolverine avec ses griffes en os, mais j'avais pas lu la fin de l'histoire. Là, Origin 2, moi j'ai été pris, j'ai trouvé ça plaisant, encore une fois, parce que j'avais l'impression de revivre le livre de la
Le livre
jungle,
de
mais
la jungle. Oh putain, non mais.
version
Oh putain,
Wolverine.
je dis ça pour déconner, moi.
Non, mais c'est vrai. Et avec, en plus, graphiquement, je trouvais que c'était très beau. C'était écrit à travers, bah, justement, on voyait Wolverine qui parlait de son expérience avec les loups, justement de sa curiosité vis-à-vis de l'ours. Et justement, le retournement de situation avec l'ours, j'étais assez touché. C'est voilà, la scène en plus est très très belle, enfin est très belle et en même temps très dure. Et voilà, après la scène d'action est bien réussie. Ça faisait un petit peu, ça pourrait faire un début de film également aussi. Et voilà, et puis il y a ce petite chose à la fin qui nous dit voilà vers quoi on va aller par la suite. J'irai clairement voir le deuxième et j'ai apprécié ma lecture. Voilà, c'est un bel objet aussi, comme je vous parlais de cette couverture qui est très jolie.
Pour moi, c'est clairement Adam Kubert qui fait la narration, parce que la narration de Kieron Gillen, je la trouve toujours mauvaise. Je la trouve mauvaise. Je sais pas. Je trouve ça mal écrit. Je trouve ça lourd, cette narration. Alors que Adam Kubert, juste avec ses images, il te raconte l'histoire. En fait, les mots de Kieron Gillen posés sur les dessins ne servent à rien pour moi.
Ah, ils sont deux, hein, pour ce bouquin quand même. Donc,
Et ils sont deux, mais
tant qu'on n'a pas le script de Kieron Gillen, on ne sait pas à quel point
Ben en plus, oui, c'est
l'un
ça
a
le
influencé
problème.
l'autre,
C'est
mais
ça le problème, c'est que normalement un premier numéro doit te donner envie et doit te poser un petit peu l'histoire pour que tu te dises bon bah voilà, ça a parlé de ça, j'irai voir la suite. Mais là, je sais même pas où il va. Non, franchement, c'est pour moi c'est le gros raté de la semaine quoi.
D'accord. Donc, bah ta note, Benny, pour toi.
Bah, du coup, pour moi, c'est un petit check-it. Et alors, à la limite du pass, parce que pour moi, il y a juste les dessins d'Adam Kubert qui valent là-dedans, et c'est un petit peu le problème, quoi. À la rigueur, j'aurais bien aimé avoir un sketchbook, un artbook d'Adam Kubert. Voilà, ça m'aurait bien fait plaisir. Mais l'histoire, bah non. Non, surtout appeler ça Origin 2. Moi, je trouve que j'aurais pas eu de problème s'ils avaient publié cette série, cette histoire, pardon, dans une série Wolverine régulière. Mais appeler ça Origin 2 et nous servir ça, non.
D'accord. Bruno.
Moi, c'est un bail.
Bah pour moi aussi, ce sera un bail. Peut-être pas aussi enjoué que toi, Bruno, mais enjoué néanmoins. Et ouais, j'ai vraiment envie d'aller voir la suite. Et bon, je rajouterai pour aller faire un peu de teasing pour ceux qui seraient un petit peu réticents parce qu'ils suivent beaucoup l'avis de Bunny. Bah pour comprendre quelle est cette
Hey.
fin, sans forcément aller lire, je vais juste donner un petit indice. Bah, c'est Kieron Gillen au scénario, donc réfléchissez à son run sur Uncanny X-Men et vous comprendrez très vite.
Je savais pas que ma vie était aussi passionnante.
Non, mais c'est, non, c'est vrai
Non,
qu'on
non, mais
on a toujours un chroniqueur dont on se sent le plus proche pour ceux qui suivent les Comics Weekly.
Non, mais
et donc,
je plaisantais, puisque tu disais ceux qui suivent ma vie. Ceux qui suivent
ah,
la vie de Bunny.
Ah voilà. Oui, là, oui, oh.
Oh là là.
Oh là là.
Ah. Pourtant, je ne suis ni sur Facebook, ni sur Twitter. Donc, je sais pas comment ils font, en fait. On m'espionne, je le savais.
Les caméras chez toi, quand je suis
venu,
on est
posé plein.
Allez sur MrAnnyBunny.com et vous le verrez dans 4h24.
Si ça tombe, ils vont tomber sur un site dégueulasse.
C'est un site porno, pédophile, un truc dans le genre.
Ah bah sympa, Tu vois, j'en espérais pas tant.
Ce truc absolument ignoble. Bref, voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme on vous avait dit, une petite semaine de comics. On a pris notre temps, on s'est fait plaisir. On avait envie de faire une dernière petite émission pour cette année 2013. Ce sera la dernière de 2013, hein. La prochaine émission reviendra en 2014.
On a l'impression que c'est dans super longtemps, mais ça fait jamais qu'une toute petite semaine.
C'est ça, ouais.
Une petite semaine plus ou moins de repos, on va dire. Plus ou moins. Et comme d'habitude, on se retrouve bien sûr sur Facebook, sur Twitter. Twitter, vous avez le concours, le dernier concours de notre grand mois de concours pour les 5 ans, le concours Delcourt, avec à gagner Chew, Tom 7 et Star Wars, je n'ai plus le titre... Un tome de Star Wars.
Wars de Brian Wood, le premier tome.
Voilà, merci. Très bonne série d'ailleurs, au passage. Et puis bien sûr, comme toujours, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Les mails seront lus et nous y répondrons dans le Weekly News. Messieurs, c'était un plaisir.
Bah oui, bah moi aussi. Et puis,
pour cette année de podcast.
Ouais, c'était vraiment très sympa et on va souhaiter une bonne année à nos auditeurs.
Je vais en même temps, c'est vrai, très bonne année à tous nos auditeurs. En même temps, j'avais fait le petit calcul la dernière fois avec Mr. Nebony, on en discutait après la dernière émission. J'ai fait le calcul de toutes les émissions que l'on a sorties cette année et ça représente une émission tous les 3 jours.
Pour cette année? Ah bah dis donc, ouais.
Dit comme ça, ça fait très peur.
Donc on a plus bossé que la plupart des gens qui font des émissions à la télé, par exemple.
Oui. Et dire que l'année prochaine, on fera l'équivalent de 2 émissions par jour. Non, je plaisante.
Ouais, parce que ça.
Libérez non. Votre emploi du temps tout de suite, les mecs. Hein.
Deux émissions par heure.
On se retrouve donc l'année prochaine. J'adore dire ça, c'est tellement ridicule, mais ça me fait toujours marrer. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez bien sûr réécouter tous les anciens épisodes sur iTunes et sur le site. J'avais oublié de le préciser, mon Dieu.
Voilà.
C'est terrible. C'est la fin de l'année, on ne sait plus ce que l'on fait. On se dit à l'année prochaine, et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et buvez beaucoup, c'est le premier de l'an, mais ne prenez pas la route.
Profitez-en bien, et puis à l'année prochaine. Ciao, ciao.
Ouais, je dirais le contraire, prenez la route, mais ne buvez pas dans ce cas-là. Allez, ciao à tous.
And you hate